Oh, Henry, on ne peut pas tout avoir. Hastings, Beauchamp, Morley traversèrent rapidement Union Square en jetant un regard de pitié sur les centaines de vagabonds affamés sur les bancs du parc. Une drôle de bande que ces types-là, pensa-t-il. Les hommes mal rasés avaient des faces stupides et bestiales. Les femmes faisaient des grimaces et des contorsions en remuant leurs pieds et en balançant leurs jambes au-dessus du gravier. Hastings, Beauchamp, Morley étaient soigneusement et élégamment vêtus. C'était le résultat d'un instinct dû à sa naissance et à son éducation. Il nous est défendu de pénétrer dans le sein d'un homme au-delà des plastrons de sa chemise. C'est pourquoi il ne nous reste qu'à rapporter ses faits, gestes et conversations. Morley n'avait pas un sou en poche, mais il souriait d'un air de pitié en considérant une centaine d'infortunés, sales et barbouillés, qui n'en avaient pas davantage et qui n'en auraient pas davantage non plus lorsque les premiers rayons du soleil commenceraient à dorer le grand bâtiment qui se trouvait du côté ouest du square. Mais Morley, lui, en aurait suffisamment à ce moment-là. Ce n'était pas la première fois que le crépuscule avait surpris les poches vides, mais toujours l'aurore les avait trouvées bien garnies. Tout d'abord, il se rendit chez un clergyman qui habitait à proximité de Madison Avenue et lui présenta une fausse lettre d'introduction qui prétendait émaner d'un pasteur de l'Indiana. Cette lettre, accompagnée d'un boniment réaliste relatif à une infortune passagère, lui rapporta $5. Sur le trottoir, à 20 pas de la porte du clergyman, un homme gras, au visage pâle, l'arrêta et lui mit brutalement son poing sous le nez en réclamant d'une voix criarde le remboursement d'une vieille dette. « Oh, tiens, c'est toi, Bergman !» susurra Morley d'une voix douce. « Oh, je me rendais justement chez toi pour solder mon compte. C'est seulement ce matin que j'ai reçu les fonds de ma tante. Ils avaient été envoyés à une fausse adresse. Viens jusqu'au coin et je vais te régler. Heureux de te voir, ça m'épargne un déplacement. » 4 verres d'alcool apaisèrent l'irritable Bergman. Lorsque Morley avait de l'argent sur lui, il avait un air qui eût fait reculer une demande d'emprunt du Nicaragua. Mais c'est seulement quand il était sous le sou que son bluff baissait d'un demi-ton. Mais il y a peu de gens assez compétents pour percevoir la différence entre un la dièse et un si bémol. « Venez chez moi demain pour payer, Morley, » dit Bergman. « Excusez-moi si je vous ai arrêté dans la rue, mais je ne vous en fais pas depuis 3 mois. À votre santé !» Morley s'éloigna, son visage pâle illuminé d'un sourire ambigu. Le crédule juif allemand, sensible aux libations, l'avait amusé. Désormais, il lui suffirait d'éviter la 29e rue. Il savait maintenant que Bergman rentrait chez lui par ce chemin-là. À 2 blocs plus au nord, Morley s'arrêta devant la porte d'une maison située dans l'ombre et frappa plusieurs coups d'une façon particulière. La porte s'entrebâilla, battue par une grosse chaîne de 6 pouces, et dans l'entrebâillement apparut le visage noir, important et pompeux, d'un gardien africain. Morley fut introduit dans une pièce du 3e étage dont l'atmosphère avait été rendue opaque par une fumée intense. Il se pencha pendant 10 minutes au-dessus d'une roulette. Puis il se glissa de nouveau jusqu'en bas des escaliers et fut rejeté dehors par le nègre important. Il se mit en route, faisant tinter dans sa poche les 40 cents qui lui restaient sur son capital de $5. Au coin de la rue, il s'arrêta, indécis. De l'autre côté de la rue, en face de lui, se trouvait une pharmacie brillamment illuminée. Des rayons multicolores émanaient de ses bocaux et de ses multiples flacons. Bientôt apparut un gamin de 5 ans qui marchait fièrement avec l'attitude d'un petit homme à qui l'on a confié une commission importante, sans doute à cause de sa maturité précoce. Dans sa main, il étreignait étroitement, publiquement, fièrement, ostensiblement quelque chose. Morlaix l'arrêta et, avec son sourire charmeur, lui adressa ce mielleux discours. Oh, moi, dit le gamin, je m'en vais à la pharmacie pour maman. Elle m'a donné 1 dollar pour acheter un flacon de médecine. Tiens, 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 voyez-vous ce petit homme qui fait les commissions pour sa maman? Mais c'est très bien, ça. Eh bien, je vais t'aider à traverser la rue pour être sûr que tu ne feras pas écraser par un tramway. Et puis, avant d'entrer chez le pharmacien, si on allait manger quelques chocolats, à moins que tu préfères des bonbons acidulés. Quelques minutes plus tard, Morlaix entrait dans la pharmacie, conduisant le gamin par la main. Il présenta l'ordonnance qui avait servi à envelopper le dollar. Sur son visage se lisait un sourire paternel, politique, profond et vicieux. À quoi pourra 100 grammes, dit-il au pharmacien. Chlorure de sodium, 10 grammes. Et n'essayez pas de m'écorcher, parce que je ne bois jamais de la première et que je me sers toujours de l'autre pour mettre sur mes pommes de terre. 15 cents, fit le pharmacien avec un clin d'œil, après avoir exécuté l'ordre. Oh, je vois que vous comprenez la pharmacie. Le prix normal est 1 dollar. Mais pour les poires, répondit Morlaix en souriant. Il enveloppa soigneusement la bouteille, la mit entre les mains du gosse et l'escorta jusqu'au coin. Dans sa propre poche, il enfouit les 85 cents qui lui avaient été alloués grâce à ses connaissances chimiques. Et fais attention au tramway, fiston, fit-il joyeusement à sa petite victime. Deux tramways apparurent tout à coup à chaque extrémité de la rue et fondirent sur le petit garçon. Morlaix se précipita, attrapa juste à temps le petit messager par le cou et le transporta sur le trottoir opposé. Alors il le renvoya chez lui, tout heureux et suçant des bonbons de qualité inférieure que Morlaix lui avait achetés chez l'Italien du coin. Morlaix se rendit ensuite dans un restaurant et commanda un beefsteak avec une demi-bouteille de vin. Tout en mangeant, il se mit à rire sans bruit, mais avec tant de bonne humeur que le garçon se crut permis de supposer qu'il avait reçu de bonnes nouvelles. Oh, ma foi, non, répondit Morlaix, qui évitait généralement d'engager une conversation avec des inconnus. Non, ce n'est pas ça, c'est quelque chose d'autre qui m'amuse. Savez-vous quelles sont les trois catégories de gens qui sont les plus faciles à rouler dans n'importe quelle espèce de transaction? Oh, sûrement, fit le garçon, estimant un bon pourboire après avoir considéré l'élégance vestimentaire de Morlaix. Il y a d'abord les épiciers du Sud qui viennent à New York pendant l'été, et puis les types qui voyagent pendant leur lune de miel, et puis... Non, 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 fit Morlaix en ricanant joyeusement. La réponse est les hommes, les femmes et les enfants. Le monde, ou bien plutôt, disons, New York est rempli de poires. Si ce beefsteak était resté 2 minutes de plus sur le grill, il eût été digne d'être mangé par un gentleman. Oh, si vous voulez, répondit le garçon, je peux vous le... Morlaix leva la main pour l'arrêter, et avec un sourire de condescendance. Non, non, dit-il d'un ton magnanime, cela ira pour aujourd'hui. Et maintenant, allez, un café, une chartreuse. Morlaix sortit nonchalamment et s'arrêta un peu plus loin au croisement de deux grandes avenues. Lesté d'une seule et unique petite pièce de monnaie dans sa poche, il se tenait sur le trottoir, contemplant avec des yeux souriants, confiants et cyniques, la vague humaine qui déferlait devant lui. Et c'est dans ce courant qu'il devait jeter son filet pour amener le poisson destiné à subvenir à ses besoins. Tout à coup, une bande joyeuse, deux femmes et deux hommes, fondit sur lui avec des cris de joie. Ils allaient, selon leur propre expression, faire un bon gueuleton, et ils étaient en veine de générosité excentrique. Ils l'entourèrent, le submergèrent, l'invitèrent à se joindre à eux, et tralala et tralala. L'une des femmes, dont le chapeau s'ornait d'une plume blanche qui lui retombait sur l'épaule, posa sa main sur la manche de Morlaix et adressa aux autres un regard triomphant qui disait « Vous allez voir si je réussis pas, moi !» Elle renouvela son invitation d'un ton de reine. « Bon, je ne sais comment vous exprimer mes regrets de ne pouvoir me joindre à vous, » dit Morlaix d'une voix pathétique, « mais mon ami Carothers du New York Yacht Club doit me prendre ici à 8 heures. » Le chapeau à plumes blanches s'inclina, et les quatre bons vivants s'éloignèrent aussitôt dans l'avenue en dansant comme des mouchons autour d'une lampe. Morlaix, tâtant près à piécette dans sa poche, se mit à rire joyeusement. « Du culot !» murmura-t-il doucement. « Avec du culot, on réussit toujours. Le culot, c'est l'atout dans le jeu de la vie. » Et comme ils avaient été ça facilement, oh, comme ils les avalent, hommes, femmes, enfants, on leur fait avaler tout ce qu'on veut. Un vieil homme, mal vêtu, agrémenté d'une longue barbe grise et d'un parapluie encombrant, parvint à s'extirper de l'ouragan des voitures et des tramways et s'arrêta sur le trottoir à côté de Morlaix. « Étranger, dit-il, excusez-moi si je vous dérange, mais... « Vous ne connaîtriez pas, par hasard, quelqu'un dans cette ville qui s'appelle Salomon Smothers ?»« C'est mon fils et je suis venu d'Ellenville pour le voir. »« Oh, du diable, s'il me souvient de ce que j'ai fait du papier où il avait inscrit sa rue et son numéro. »« Ah non, monsieur, » répondit Morlaix, fermant à demi ses paupières, pour voiler la joie soudaine qui venait d'illuminer ses yeux. « Non, non, je ne sais pas. » Oh, vous feriez mieux de vous adresser à la police. La police, répondit le vieil homme, il n'y a pas de quoi appeler la police pour ça. Je suis venu ici pour voir Ben. Il habite dans une maison de 5 étages qui m'a écrit. Si vous connaissez quelqu'un de ce nom-là, et si... Mais je vous ai dit que non, répondit Morlaix froidement. Je ne connais personne du nom de Smithers et je vous conseille... « Non, Smothers, non, Smithers, » dit le vieil homme d'un ton plein d'espoir. « Un homme lourd, au teint rouge. Il a 29 ans, 5 pieds 6 pouces, et il lui manque 2 dents sur le devant. »« Oh, Smothers !» s'écria Morlaix. « Salomon Smothers ?»« Oh, bien sûr, il habite à côté de chez moi. J'ai cru que vous aviez dit Smithers. » Morlaix tira sa montre. Il faut avoir une montre. Ça ne coûte jamais qu'un dollar. Mais c'est indispensable dans la corporation. Oh, l'évêque de Long Island, dit Morlaix, devait me prendre ici à 8 heures pour dîner avec lui au Kingfisher's Club. Mais je ne veux pas abandonner le père de mon ami Salomon Smothers, seul dans la rue. Par Saint-Swicing, Monsieur Smothers, nous autres boursiers, travaillons comme des esclaves. « Oh, ma fatigue n'a pas de nom. J'étais sur le point de traverser l'avenue pour aller prendre un verre de ginger ale avec une goutte de sherry, ce que vous m'avez adressé la parole. Permettez-moi de vous accompagner jusque chez Salomon, Monsieur Smothers. Mais avant de prendre le tramway, j'espère que vous voudrez bien me faire le plaisir d'accepter un verre. » Une heure plus tard, Morlaix s'assit à l'extrémité d'un banc de Madison Square avec un cigare de 25 cents entre les dents et 140 dollars en billets crasseux dans sa poche. Satisfait, ironique, le cœur léger, l'esprit hautement philosophique, il contempla la lune à travers les nuages flottant de la fumée de son cigare. Un vieux vagabond, déguenillé, était assis, la tête pendante à l'autre bout du banc. Au bout de quelque temps, le vieux clochard se remua et regarda l'autre occupant du banc. À l'aspect des vêtements de Morlaix, il crut deviner que celui-ci appartenait à une caste supérieure à celle qui fréquentait habituellement le parc pendant la nuit. Mon bon monsieur, gémit-il, auriez-vous la bonté de donner une petite pièce à un pauvre malheureux qui... Morlaix l'interrompit en lui jetant 1 dollar. Oh, que Dieu vous bénisse, dit le vieil homme. Il y a 15 jours que j'essaye de trouver du travail. Du travail, répéta Morlaix en riant bruyamment. Mais tu n'es qu'un imbécile, mon ami. Le monde est un roc pour toi, sans doute, mais il faut faire comme un rond et le frapper de sa baguette. Et alors des choses meilleures que l'eau en jailliront pour toi. C'est pour ça que le monde est fait. Il me donne à moi tout ce que je lui demande. Dieu vous a béni, dit le vieil homme. Moi, je n'ai connu que le travail, et maintenant je ne peux plus en trouver. Il faut que je rentre, dit Morlaix en se levant et boutonnant son pardessus. Mais je suis arrêté ici seulement pour fumer un cigare. J'espère que vous trouverez du travail. Puisse votre bonté être récompensée ce soir, répondit le vieil homme. Oh, fit Morlaix, ton vœu est déjà accompli. Je suis satisfait, et je crois que la veine me suit comme un chien. Et maintenant, je m'en vais aller coucher dans cet hôtel que tu aperçois là-bas, de l'autre côté du square. Et regarde un peu comme c'est beau cette lune qui éclaire la grande cité. Il n'y a personne qui apprécie le clair de lune autant que moi. Allez, bonne nuit, mon vieux. Morlaix traversa le parc et se dirigea vers son hôtel. Tout en marchant, il tirait de son cigare de longues bouffées de fumée blanche et les lançait vers le ciel. Il croisa un policeman à qui il adressa un petit signe de tête protecteur et qui lui rendit son salut. Quelle belle lune il y avait ce soir! Comme 9 heures sonnaient à l'horloge du parc, une jeune fille s'arrêta au carrefour pour attendre le tramway. Elle avait l'air pressée et impatiente de rentrer chez elle. Ses yeux étaient clairs et purs. Elle était vêtue d'une simple robe blanche et avait les yeux fixés sur le tramway qui s'approchait rapidement. Morlaix la connaissait. 8 ans auparavant, il s'était assis auprès d'elle sur les bancs de la même école. Où il n'y avait jamais eu d'idylle entre eux, seulement l'amitié des jours innocents. Mais tout à coup, il fit demi-tour, s'enfonça dans un coin sombre du parc, posa son front soudainement brûlant contre la grille et dit d'un air sombre: « Mon Dieu, il y a des moments où on a envie de mourir. »